Haute-Ariège. Haute-Ariège, du swing, des blues notes et du rythme sur Radio Transparence avec Bruno Blueboy et un invité surprise. Bonsoir à toutes et à tous. La séance de ce soir est une séance spéciale consacrée à un ouvrage Blues in the Mississippi Night, Blues dans la nuit du Mississippi, édité par un éditeur ariégeois, les éditions du Bout de la Ville. Ce livre est la transcription en anglais et en français d'un entretien réalisé par un chercheur, Alan Lomax, qui a enregistré une soirée au cours de laquelle trois bluesmen de légende, Big Bill Bronzy, Johnny Sonnybo Williamson et Memphis Slim, ont répondu à la question d'où vient le blues. J'ai avec moi, mon ami Paul Sud. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Qui a eu l'idée, la brillante idée de réaliser cette émission. Il va vous expliquer comment lui est venue cette idée.
Et effectivement, Bruno, l'idée de cette émission un peu spéciale a germé dans mon petit esprit à l'occasion du festival Résistance. C'était en juillet 2023, comme tous les ans. J'étais dans les allées du festival et notamment autour de la librairie éphémère des éditions du Bout de la Ville dont tu as parlé, là, qui est située au Mas d'Asile. Et comme d'habitude, Floréal, un des animateurs de cette librairie, m'a fait des suggestions de lecture. Là, je le remercie pour le travail qu'il fait depuis des années autour de textes rares et militants. Et il m'a tendu l'ouvrage « Blues in the Mississippi Night » en me disant « ça devrait t'intéresser, toi qui animes des émissions de musique ». Bon, j'ai pris l'ouvrage en confiance, je l'ai dévoré en quelques jours et là, totalement conquis. J'ai dit vraiment la dimension historique, les origines du blues, la dimension sociale, ce qui se passe aux États-Unis avec l'exploitation raciste, etc., etc. C'est pour moi, c'est pour nous. Et donc c'est là qu'assez rapidement j'ai eu cette idée d'enregistrer la version française de cette conversation de trois bluesmen. Et comme je suis assez ignorant du blues, ben, je me suis rapproché des spécialistes, des experts à la radio, à Radio Transparence, et donc de toi pour te proposer ce projet, cette collaboration, étant donné que qu'on se connaissait quand même depuis quelques années.
Certes.
Et ce qui est important à dire, bon, fallait trouver quand même des comédiens pour lire les textes. Donc moi, comme je fais du théâtre depuis 25 ans avec la Lof Company, je me suis tourné vers les comédiens de cette compagnie et je leur ai proposé, ils ont été enthousiastes et donc je leur ai envoyé le texte. On a organisé deux séances de travail et d'enregistrement et ça a donné le résultat que vous allez écouter aujourd'hui avec donc dans les trois voix, la voix de Big Bill Bronzy, c'est la voix d'Olivier Chambard, celle d'Alain Durécu donnera voix et vie à Memphis Slim. Et enfin, pour Sonny Boy Williamson, c'est Serge Lévy Lozata. Et je les remercie tous les trois d'avoir participé à ce projet. Alors, à noter qu'on a laissé le texte original en anglais à quelques moments et on le met en arrière-plan, en background, comme on dit en anglais.
Oh, super idée.
Voilà. et c'est, d'ailleurs, toi, tu m'as expliqué quand on s'est rencontrés l'origine de ce projet et le contexte de cette rencontre des trois bluesmen.
Oui, il s'agit donc d'une discussion entre trois bluesmen qui a été enregistrée à New York au début de l'année 1940. Par Alan Lomax. Alors, qui était Alan Lomax ? Ben pour en parler, il me faut dire qui était son père, John Lomax. Ce dernier était un universitaire, directeur du département d'archives de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, s'il vous plaît. John Lomax a entrepris un travail colossal, consistant à sillonner les États-Unis à partir de 1933 afin d'enregistrer en field recordings, c'est-à-dire sur le terrain, les styles musicaux populaires. Son fils Alan, dès l'âge de 17 ans, l'a accompagné partout. Accompagné d'équipes mobiles, de voitures et un camion studio, ils ont passé au peigne fin les plantations, les pénitenciers, les fermes de rééducation, les marchés, les bars, à la recherche de blues, de spirituals, de hollers, de chants de travail, etc. Entre 1933 et 1942, ils ont ainsi enregistré plus de 4000 titres sur des disques 78 tours, pas plus de 850 interprètes afro-américains. Quel boulot. Alan Lomax a invité en 1947 trois musiciens de blues de Chicago, réputés, pour participer à un concert qu'il organisait pour la mairie de New York. Je redis les noms, qu'a dit tout à l'heure Paul Sud, Big Bill Bronzy, le guitariste, Johnny Sonnybo Williamson, l'harmoniciste, et Memphis Slim, le pianiste. Les trois sont venus et ont dormi chez Lomax à Greenwich Village, le quartier bobo des artistes de gauche, où régnait alors une intense activité culturelle et intellectuelle. Le fait qu'ils aient été hébergés par Lomax pour éviter d'avoir à payer une note d'hôtel exorbitante par rapport à ce qu'ils gagnaient en dit long, je crois, sur la vie des bluesmen à l'époque et sur les relations qu'Alan Lomax avait réussi à nouer avec eux. Alan Lomax les a emmenés un dimanche chez Decca, prestigieuse maison de disques, où ils ont pu disposer d'un studio rien que pour eux. Lomax a posé un micro par terre, il leur a posé la question « Dites-moi ce qu'est le blues » et il les a laissés bavarder entre eux, librement, en se faisant oublier. Car il n'était absolument pas évident à cette époque-là que des Noirs puissent parler comme ils l'ont fait devant un Blanc. Ce qui s'est passé est alors incroyable, c'est inédit. Pour la première fois, des Noirs ont parlé à cœur ouvert de tout ce qu'ils subissaient. La misère, le travail harassant dans les champs, les camps de travail, les pénitenciers, la violence des Blancs, les lynchages, toute l'horreur d'un système capitaliste ségrégationniste d'une cruauté abominable. Je vais présenter rapidement les trois artistes qui sont trois grands noms du blues. Hein, Big Bill Bronzy, qui est un personnage central, qui a joué un rôle primordial dans l'évolution du blues. Johnnyson Ebony Williamson, un virtuose de l'harmonica qui a mis en place la formule du schéma de base du blues moderne. Et Memphis Slim, un pianiste qui a accompagné plusieurs années Big Bill Bronzy et qui a passé un temps de sa vie en Europe. C'est pour ça qu'il est assez connu en France. C'est Memphis Slim qui ouvre la séquence avec une chanson qui commence par « Il faut pleurer un petit peu, mourir un petit peu », on l'écoute.
Big Bill Bronzy.
Car want to see a calf, but I don't say it like that. I said it's a man that's got a companion and she turned him down.
Il y a des gens qui disent que le blues c'est comme une vache qui veut revoir son veau, mais moi je dis pas ça. Je dis qu'un homme qui a une compagne et qu'elle le plaque, c'est des choses qui arrivent. Et moi c'est le genre de choses qui me fout le blues. Mais quand je veux voir ma chérie que j'en ai méchamment envie, mais qu'il y a un os et que je la trouve nulle part, là, ça me colle le blues. Qu'est-ce t'en dis? T'as quelque chose à dire là-dessus? Ce qui fait qu'on a le blues?
Ben je vais te dire, ça me tracasse rien que d'y penser.
Sonny Boy Williamson.
J'avais une jolie petite gosse, tu vois, elle s'appelait Estelle. On a été à l'école ensemble, on a grandi ensemble et tout, tu vois. Autrement dit, je voulais être son amoureux. Et j'ai demandé à sa mère, là-dessus, elle m'a jeté. Et ça m'a fait chanter le blues, tu vois. Je pouvais pas l'avoir, alors je me suis dit, c'est ce qui m'a donné l'idée de Little School Girl. Parce que tu vois, on était ensemble à l'école, et bon, voilà, ses parents trouvaient que je n'étais pas assez bien pour elle et que je la rendais pas heureuse et tout. Du coup, ils m'ont dit non. Je me suis posé pour réfléchir, tu vois, et il m'est venu une chanson. je me suis mis à boire, et puis je me suis mis à chanter. C'est comme ça que ça se passe.
Et tu buvais quoi ?
Bah, tu sais, à l'époque, là-bas, dans les collines, on n'avait pas de bon whisky comme ça. On buvait ce qu'on pouvait. Je buvais de ce whisky blanc, tu sais, celui qu'on fait avec du vrai maïs.
Ouais, je vois très bien.
Et ça m'a foutu le cafard, et je m'y suis mis.
Et toi, alors, qu'est-ce que t'en dis ?
Ah, quand j'ai des ennuis...
Memphis Slim.
Il n'y a que le blues qui peut m'aider. Je veux dire, il n'y a que ça qui peut plus ou moins me tirer d'affaire. Si j'ai de gros ennuis, genre loyer impayé et tout ça, il n'y a que le blues qui arrive à me consoler.
Bon, mais là où t'avais pas de loyer à payer...
Big Bill Brunzi.
Comme à la plantation.
Ben, j'avais quand même des soucis.
Ah, tu m'étonnes.
Je veux dire, moi, comme des histoires de femmes et tout ça. Le blues, c'est la seule solution possible. The only thing that you know I could consider.
Moi, ce que j'en pense du blues, c'est que c'est pas parti du Nord. De Chicago, de New York, de Pennsylvanie ou quoi. C'est parti ni de l'Est ni du Nord. Pour moi, ça a commencé dans le Sud.
Mais le blues, ça remonte à l'esclavage.
Ouais, c'est ça. Les pauvres gens à l'époque, ils devaient payer tout en bloc. Le loyer, la bouffe et tout le reste, il n'y avait pas de détails. Du coup, ils savaient rien de rien sur le loyer. Et tout ça, en ce temps-là.
Mais t'es d'accord que le blues, ça aide à s'en sortir.
Ouais, à faire sortir ce qu'on ressent, à réussir à l'exprimer.
On se sent mieux avec, quand on a été abandonné par sa femme, quand on est seul ou quelque chose comme ça.
Ouais, mais pourquoi c'est du Sud que c'est parti ?
Ouais, d'accord, mais si tu réfléchis bien, ça t'aide. N'importe qui, ça l'aide à dire ce qu'il ressent.
Ouais, à exprimer ses sentiments.
Voilà, ouais, mais l'important, c'est pourquoi le blues ? Pourquoi un gars se chope le blues, non ? Pourquoi il a le blues ?
D'après moi, le blues et les spirituals, c'est un peu du même ordre. Je veux dire, quand on a des problèmes, on va à l'église, ouais, on chante et ça va mieux. Ouais. Je veux dire, on trouve un peu de consolation.
On entend ici un living hymn, un chant religieux baptiste enrichi par les noirs de notes altérées et d'effets vocaux qui résonnent comme une sorte de blues chorale.
Sonny Boy Williamson.
Je veux dire, à mon avis, je pense que nous, les gens de couleur, on a eu tellement d'ennuis, on est la seule nation qui... On a toujours essayé d'être heureux, quoi qu'il arrive. T'as remarqué ? C'est parce qu'on n'a jamais eu grand-chose, tu comprends ? On essaie de vivre au mieux, on fait ce qu'on peut. On n'a rien, mais on essaie de garder la pêche. On ne se laisse pas miner par grand-chose, tu vois ? Et puis tout simplement, on se fait des petites bouffes avec un dollar en poche. J'étais riche, tu piges ? Tu sais, on n'a jamais, en tout cas moi, j'ai jamais été habitué à avoir tout ça. J'ai toujours dû aller bosser. Je me souviens, on a défriché le fond d'une vallée, tu vois, avec des saules.
Des terres nouvelles, comme il disait.
Des saules étaient épais. Fallait atteler 4 mules au chariot, 4 mules pour la nettoyer à fond. Fallait la dégager pendant l'hiver pour pouvoir y travailler l'été suivant, tu vois.
Ah, tu faisais quel genre de chanson ?
Big Bill Brunzi.
T'avais le blues dans les endroits comme ça ? C'est quel genre de blues que tu chantais là-bas ?
Bien sûr que je chantais le blues. Je vais chanter une des chansons que j'ai faites quand j'étais là-bas à défricher les 7 terres nouvelles.
I could hear my name ringing. Je pouvais entendre mon nom résonner. Une chanson improvisée par Sonny Boy Williamson. Lord, I can hear my name ringing. My name ringing.
believe I'm doing nothing. A grass is gone, away my time.
Big Bill Brunzi.
We really want to know why and how come a man have the blues. I worked on levee camps, extra gangs, road camps, and rock quarries and every place. And I hear guys singing this and that.
Bon, mais la grande question, c'est de savoir pourquoi, comment ça se fait qu'on chope le blues. Moi, j'ai travaillé sur des constructions de digues dans des équipes de renfort sur des chantiers de route, j'ai cassé des cailloux, j'ai été dans les carrières et partout j'entendais des types chanter des par-ci et des par-là, des oh je voudrais savoir. Et ce que je veux dire, c'est que le blues, c'est quelque chose qui vient du cœur. Moi je sais, mais personne n'entend le gars qui chante le blues. J'ai toujours pensé que ça vient vraiment du cœur, de son cœur, tu vois. Que ça exprime ses sentiments, ce qu'il ressent pour les gens et que c'est la seule façon qu'il connaît de dire ces choses-là. J'ai connu des types qui voulaient injurier le patron et qui avaient peur d'aller lui dire en face et qu'il avait à lui dire. Je les ai entendus chanter ces choses-là, ces mots-là, tu vois. Au patron de derrière le chariot, en harnachant les chevaux ou autre, les mules ou quoi, il se mettait à bosser, à chanter et à dire des choses au cheval ou à la mule, à faire comme si la mule lui avait marché sur le pied. Il disait « Vire-toi de mon pied, nom de Dieu !» ou un truc de genre. Et en fait, c'était pour le patron. « Fils de pute !» il disait. « T'as rien à foutre là, laisse mon pied tranquille !» Ce genre de choses. C'est ça le truc.
Ouais. Le blues, c'est comme une revanche.
Memphis Slim.
Tu sais que tu veux dire quelque chose et tu veux dire genre... c'est le blues, quoi, tu vois. Nous autres, tout autant qu'on est, on a passé des sales moments dans la vie et tout. Hein. Et il y avait des choses qu'on pouvait pas dire,
c'est vrai, ça.
Ni faire. Alors, on les chante.
Bon, mais comment tu exprimes ces choses-là, ces mots que tu chantes? D'où ça te vient de chanter un truc comme ça?
Bah, c'est comme un pote à moi. On travaillait sur la voie de chemin de fer, il y a bien longtemps, hein. Je ne sais plus quand, mais il me chantait des chansons, et il avait un petit morceau qui s'appelait
Section des râleurs, une chanson contre le captain.
Il pouvait pas gueuler sur le capitaine ni sur le patron. Il faisait rien, il était couché à dormir, mais il fallait quand même aller travailler. Alors ça lui a foutu le blues, mais il pouvait pas dire ce qu'il pensait. Alors il en a fait une chanson.
C'est ça.
Et il la chantait. Comme ça, il s'exprimait et il se vengeait par les chansons.
Non, c'est tout ce que je sais sur les chantiers de Ramblay, parce que moi, j'étais sur les chantiers de construction de route. On met des pierres en dessous et on fait la route. Tu vois ce que je veux dire? On a des engins qui raclent la route tout du long. Et on bouche les trous et les écoulements sur la route avec les cales et les débris en tout genre. Et puis, l'équipe de gravier vient étaler de la roche sableuse, tu comprends?
Ouais.
Mais bon, la seule différence entre un camp de construction de Ramblay et une ferme pénitentiaire, c'est que sur un chantier de Ramblay, on peut aller d'un camp à un autre quand on veut. On peut se barrer, on peut s'échapper. Il n'y avait pas de jour de paye, juste quand tu t'en vas. Tu touches, comment ils appellent ça? Ah, tu touches ton pécule. C'est tant de semaines, et une fois que ce pécule est bouffé, il n'y en a plus, tu vois. Des fois, il restait rien du tout.
Et ouais, surtout que nous, dans l'ensemble, on ne savait ni lire, ni écrire, ni compter. Ouais,
c'est vrai, ça.
Et il nous comptait 25 dollars pour une longe de lard, hein, ou quelque chose comme ça. Et il fallait qu'on reste jusqu'à ce qu'on les ait payés. Et on ne savait pas combien on gagnait. Bon, dans les 25 cents, ouais, pas de jour. Ouais. Un truc du genre... du coup, quand on voulait s'en aller, il nous disait « Bon, bah, tu me dois 400 dollars.
» Ouais, c'est vrai. Ouais.
Pour le gîte et le couvert.
Et c'est pas tout. Une supposition que ton boulot, c'est de conduire un attelage de mules et qu'il y en a une qui se casse une patte et que tu dois la battre, eh ben la mule. Et la mule, elle est à toi.
Et là, t'as plus qu'à bosser pour le restant de tes jours.
La mule, elle est à toi et tu vas la payer.
Jusqu'à ce que t'arrives à te barrer. Elle est à toi, tu veux dire quoi? Et si tu ouvrais ta gueule, tu risquais de finir comme la mule. Well, I'm here to day. Oh Lord, but tomorrow I may be gone. Can't you sing one of them? You know, that's the way you used to holler down there. How did you used to do it?
Tu veux pas chanter une de ces chansons-là? Tu sais, celle qu'on braillait tout le temps là-bas. Ah, c'était comment déjà?
Eh ben, dans les camps de construction de digues et les fermes pénitentiaires, tu vois, il y avait une chanson qui disait... I'm going to Memphis when I make parole. Stand on the living white, the big blood blow.
You know what I mean? They used to sing. Ouais, c'est génial. Non, c'est bien.
Il y avait aussi celle-là.
Lord, I wonder what got the matter. Matty won't write. You know, numbers like that.
Des morceaux comme ça, tu vois. Et à Nashville, Tennessee, on chantait...
Well, have you ever been to Nashville? Well, have you ever been to Nashville?
Est-ce que t'es déjà allé à Nashville? Si vous arrêtez pas de voler, vous allez y retourner. Memphis Slim parle de la ferme pénitentiaire.
What if you don't stop your stealing? What if you don't stop your stealing? Why if you don't stop your stealing? Oh Sonny, you're going back again. Yonder come Alberta, yonder come Alberta, yonder come Alberta, oh Lordy, how in the world do you know? I can tell by the apron, I can tell by the apron. I can tell by the apron, oh Lordy, the dress she wore.
Well, that's part of the blues, you know, the way we lived in those tents and things like that, and the food we had to eat.
Voilà, c'est ça. Il y a ça dans le blues. C'est comme ça que le blues a commencé.
Tu vois, pour te dire comment on vivait sous la tente et tout,
tout ce qu'on avait à bouffer. En fait, c'était rien que des déchets dont les gens n'avaient pas voulu. Des trucs dont ils voulaient se débarrasser. Tu vois ce que je veux dire? Des sacs de haricots trop vieux, des trucs invendables autrement.
Ouais, ils prenaient des saletés dans ce genre-là et ils mettaient tout ça dans une gamelle.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais, au camp où j'étais, ils avaient un nom pour ça. Là, la loue, si j'aime pas ça, un autre en voudra.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Mais t'aimes ça.
Et ouais.
Ouais, t'aimes ça.
Tu vois, il y avait de grands diables, comme ils appellent ça.
C'est vrai.
Ils descendaient ramasser des légumes dans des potagers, ils les bourraient dans des sacs et ils chargeaient tout ça sur leur diable.
Ouais, c'est ça.
Ils allaient les rincer vite fait dans le lac, dans le ruisseau ou quoi.
Ils les rincent vite fait et ils les balancent direct dans la gamelle.
Une rincette est direct dans la gamelle. Une grande gamelle de 200 litres, tu vois. Ils te font cuire tout ça avec des tiges et des racines.
Mais si tu trouvais un verre et tu disais « Capitaine, il y a un verre dans mes légumes », il disait « T'es pas content ? C'est mieux que rien. »
Ouais, ça je l'ai entendu.
Prends ça.
Ouais, c'est clair.
Il y avait toujours un gars à l'autre bout de la table pour dire bah, « File-moi ce bout de barbac ». C'était la grosse blague.
T'as déjà entendu causer de...
Je veux dire, ils avaient vraiment l'air de se la donner. Hein.
En ce temps-là, qu'est-ce qu'on connaissait? On savait pas qu'il y avait mieux.
Quelle rigolade, file-moi ce bout de barbac. Le balance pas, ouais, ouais.
T'as déjà vu de ces gars qu'on appelle les table walkers?
Ouais, ouais, ouais.
Ils grimpent sur une bout de la table et ils marchent jusqu'à l'autre bout en te piquant ce que t'as.
Ben, ces gars-là, c'était ce qu'on appelle des durs, hein, je veux dire, des gars qui se laissent pas emmerder.
Ça sort son 45 et ça grimpe sur la table.
Bon, il sait que personne ne lui dira rien, hein. Il nous braque avec son 45, mais quand le blanc arrive, le gars se laisse fouetter alors qu'il a son calibre.
Ouais, ouais, ouais.
Je veux dire, le blanc a pas de flingue ni rien.
Non, c'est vrai. Non.
Juste, il se pointe et il dit « Descends de là, mon gars, que je te fouette. »
Ouais, et le gars descend direct.
Et il lui donne un coup de fouet, puis il se lève. Et il vire son pistolet de son étui. Une fois qu'il s'est pris sa correction, le gars reprend son flingue et retourne au boulot.
Ouais, c'est ça.
Et si ça se trouve, il revient buter quelqu'un d'entre nous. Hein.
Ouais, ça arrive.
En même temps, si on était un bon ouvrier, on pouvait tuer n'importe qui là-bas, hein, du moment que c'était un mec de couleur.
Ouais.
On pouvait tuer n'importe qui et aller où on voulait.
Tu veux dire du moment que c'était un noir que tu tuais?
Oui, du moment que c'était un noir.
C'est vrai, ça, c'est vrai.
On pouvait tuer n'importe quel noir, hein, tant qu'on pouvait faire son boulot mieux que lui.
Non.
Faut pas tuer un bon ouvrier. Tu vas le regretter, hein, tu vas partir au pénitencier.
Ouais, c'est vrai, ouais. Et ces types qui venaient sur les camps de construction de digues et de chantiers?
Ceux qui venaient faire leurs affaires.
Hein. Oui, on les appelait les beaux mecs ou les flambeurs et autres.
Des fois, ils finissaient par en faire de bons travailleurs, hein, tu sais, ces mecs-là. Bien sûr, il y en avait plein qui étaient des sales mecs qui se pointent, hein, te gagnent tout ton blé et te cannent sans avoir aucun problème derrière.
Hein. Eh ben, moi, j'en ai connu un.
Well, the story is that this guy, Mississippi, came to all-time Arkansas.
On l'appelait Mississippi. C'était un de ces beaux mecs et il s'est fait tuer par un ouvrier, un certain Albert. L'histoire, c'est que ce type, Mississippi, est arrivé à All Time, à l'Arkansas. C'est le nom d'une ville. Et il sortait avec la femme de l'Albert en question. Sa femme, elle s'appelait Pinky. Ce soir-là, il est allé au tripot, il est rentré là-dedans vers minuit. On était toute une bande en train de boire, de jouer, de s'amuser. Et quelqu'un a hurlé « Attention, v'là Mississippi !» Alors on s'est éparpillés, certains sont sortis en courant par derrière, se planquer dans les bois ou ailleurs. Alors je l'ai entendu dire comme ça. « Je cherche l'embrouille à personne sauf Albert. Et puis, je viens chercher Pinky, je vais coucher avec elle cette nuit. » Elle n'a pas arrêté de gueuler qu'elle voulait pas aller avec lui, qu'elle voulait rentrer à la maison avec son mari.
Ouais.
N'empêche qu'il a fait sortir et ils sont partis chez Albert, la maison où il vivait avec elle. Alors il est allé et il a amené Pinky là-bas et ils sont allés au lit. Et Albert les a vus par la fenêtre ouverte. Il a regardé, il a vu Mississippi qui dormait, tu vois. Alors il s'est glissé par la fenêtre. Il est rentré dans sa chambre et il lui a tiré une balle dans la tête. Il l'a tué raide mort, tu vois.
I remember when I was a little boy, living on my mother's knee.
Memphis Slim, accompagné par les deux autres, chante Stagoli, une chanson qui évoque la figure de Stagoli qui a abattu dans la nuit de Noël 1895 à Saint-Louis William Lyons. Stagoli est devenu l'archétype du bad man, le sale type, évoqué dans de multiples chansons country et blues.
man is dead. Why don't you look around the corner, see what a hole you have in it?
Roberta est un work song, un chant de travail, inséré au montage par Alan Lomax, un chant typique des équipes de la vallée du Mississippi, entonné par plusieurs dizaines d'hommes. Le chant est interprété par le groupe de Holly Dew, surnommé Bull, le taureau, enregistré en field recordings par Alan Lomax. Les work songs ont préfiguré le blues.
Chained together. And,
Big Bill Brunzi.
Some of them just have chains with a big ball hung to their legs, and they make them work. And I've heard of chain gangs where they put a chain or rope or something on a guy and tie him to a stake, and they let him work.
J'ai traîné là où ils gardent des prisonniers enchaînés les uns aux autres, dans certains de ces chain gangs. Ils ont juste des chaînes avec un gros boulet au pied, et on les fait travailler. Et j'ai entendu parler de chain gangs, où ils mettent le gars au bout d'une chaîne ou d'une corde ou autre et ils l'attachent à un piquet et ils le laissent là à bosser jusqu'à ce qu'il arrive au bout de sa corde ou de sa chaîne ou un truc qu'ils lui ont mis. Et alors ils arrachent le piquet et le remettent ailleurs. Et ils le font travailler comme ça en rond, tu vois.
Si un gars part à Cummins,
Memphis Slim,
et qu'il s'est pris... faut savoir qu'on leur colle toujours la peine maximale, hein, des 100 ans, des 50, des 75 ans, des trucs du genre. Eh ben, au bout d'un certain temps, ils s'habituent et ils en font un auxiliaire. Hein. Ils lui donnent un fusil et lui font garder les courtes peines. Ils appellent ça des courtes peines, hein, des gars qui se sont pris de 3 à 10 ans, tu vois, dans ces eaux-là. Bon, mais là-bas, on se fait frapper. Les prisonniers, ils les fracassent, hein, ils les fouettent là-bas. Bon, mais là, on cause toujours du...
Chat à cette queue.
On cause toujours du blues, donc...
Ouais, le blues, lui, il l'a.
Bah, il te colle le blues, en fait. Hein.
Carrément, mmh, carrément. Le blues en plein. Voilà, le blues. Ouais. Mmh.
C'est de tout en bas, dans le sud, hein, qu'il vient, le blues.
Mais ce que je veux dire, c'est que ces gars-là, dans les chain gangs, avec leur boulet au pied, ils peuvent aller nulle part sans être surveillés par un maton qui les colle et tout. Bah, eux aussi, ils l'ont, le blues.
Murderer's Home, la maison du meurtrier, une chanson de prison typique insérée par Alan Lomax, interprétée par le groupe d'un certain Jimson, enregistré en field recordings.
Well, I remember
a friend of mine were down there. Of course, he was in a much better place than what you're talking about. It was so tough down there that they didn't put these things on. They let them go. They tell them to run, you know.
Run. Ouais, c'est comme un pote que j'avais là-bas. Alors, il était dans un endroit bien plus pourri que ce dont tu parles. Là-bas, c'était si dur qu'il leur mettait pas ces trucs-là. Hein. Il les laissait aller et venir. Juste, il leur disait de courir, tu vois. Cours.
Il y a le chien qui est là pour te choper, il te traque où que tu ailles.
C'est ça, hein, les chiens te traquent. Ils te traquent.
Ouais, si t'essaies de te sauver...
Don't you hear poor mother calling? T'entends pas ta pauvre mère qui t'appelle? Chanson interprétée par le groupe de Holly Dew Bull, enregistrée par Alan Lomax au Field Recordings. Vous écoutez Haute Ariège sur Radio Transparence, vous êtes avec Bruno Blueboy et Paul Sud pour écouter la retranscription de Blues in the Mississippi Night, une discussion entre trois bluesmen enregistrée en 1947 par le chercheur Alan Lomax. Memphis Slim reprend la parole.
Tout le blues est sorti de trucs comme ça.
C'est ça, je veux dire, avec cette histoire de cœur, tu vois, chanter du fond du cœur, faire sortir ce qu'on ressent. Il y a personne qui peut le refaire derrière toi.
C'est du vécu.
Ouais, c'est du vécu.
Mm-hmm. Et puis aussi des choses que tu veux faire ou que tu veux savoir.
Des choses qui te sont vraiment arrivées, tu vois.
Exactement. C'est ça, le blues.
Et bien sûr, tu prends par exemple les gars qui connaissent pas la galère. Ils comprennent pas ce qui se passe pour le pauvre gars qui a galéré.
Oui, par exemple...
Et qui continue.
Les gars du classique.
Ouais, voilà, ouais.
Ce genre-là.
Et pan !
Ils savent pas ce que c'est.
C'est ça.
Ils connaissent pas le blues. Même s'ils voulaient, ils pourraient pas jouer le blues.
Ouais, c'est vrai.
Je veux dire, pour avoir le blues et pour le jouer, il faut être un homme.
En fait, il faut avoir le blues pour chanter le blues.
Memphis Slim.
Trying to get out to Little Rock, and so a fellow by the name of Mr. Cuff, he was the baddest fellow in the latter part of Arkansas. So he said, "What are you doing hitchhiking here, fella, a boy?" I said, "Well, say, I'm trying to get home to work." He said,
"Tu sais qu'ils avaient voté une loi en Arkansas, pas d'autostop. Et un après-midi, je faisais justement du stop pour essayer d'aller jusqu'à Little Rock. Et là, un certain Mr. Cut, le pire gars de ce coin de l'Arkansas. Alors il me dit, dis donc mon gars, qu'est-ce qui te prend de faire du stop ici? Bah, je lui dis, j'essaie de rentrer chez moi pour travailler. Bon, il dit, tu travailles où et pour qui? Moi, je dis, je travaille à Hughes pour Mr. Charlie Houlin. Alors, il me dit, allez, monte, je t'emmène là-bas. Tu comprends?
Ouais, ouais.
À un autre moment.
Ah, ouais, ouais.
Ou si tu bossais pour un autre patron, ou si tu bossais pas, c'était bon pour te faire fouetter.
C'est vrai, ouais, ça, c'est vrai.
Et on allait en prison, et puis sur la digue ou à la ferme.
À la ferme, on travaillait pour rien.
C'est ça. Mais comme je travaillais pour Mr. Charlie Houlin, il m'a emmené chez Mr. Charlie.
Ouais, peut-être même qu'il voulait pas t'embêter vu que t'étais un homme à lui.
Exactement. Alors il me prend dans sa voiture.
Ouais, voilà.
Et il m'a fait même boire un coup.
C'est
hein.
Vrai.
Ouais, ouais.
C'est le genre de truc qu'ils font.
Ouais.
Entre autres.
À propos de Charlie Houlin, c'était vraiment un ami, hein, tu vois. Je veux dire qu'à l'époque, on y croyait, nous, les Noirs.
C'est le gars qu'on courait tous trouver au cas où...
quand on était maltraité.
Par Bill Logan, Laura Noir. Ouais, ces gars-là, quoi.
Ouais, ouais, autrement, on le voyait comme le gars charitable.
Ouais, ouais, ouais.
Je me souviens d'un incident à Hughes, Arkansas. Il y avait là-bas un certain Charlie Houlin, qui tenait un... On quitte donc.
C'est ça, un barrel house, comme ils disent.
Ouais, ouais, ouais. Il avait plein de biens dans le coin, tu vois. Des tas de propriétés. C'était un gars de couleur. Donc là-bas, ils avaient embauché un shérif.
Mmh.
Et ce shérif vivait dans une des maisons de Charlie Houlin. Et il ne payait pas le loyer à Charlie. Hein. Il habitait là, et c'est tout. Et donc, chaque fois que Charlie lui demandait son loyer, il le fouettait.
Ah ouais.
Mmh. Or, il se trouve qu'il était, comme on disait... un des nègres de Mr. Charlie Houlin. Alors, Charlie Houlin a fini par trouver le courage de le dire à Charlie Houlin. Alors, Charlie Houlin est allé parler aux flics en lui disant « Rencard, samedi soir, à 1h, tu me tues ou je te tue ?» Et je veux dire, c'est pas une blague, hein, hein, c'est ce qui est arrivé. Hein. Il l'a donc rencontré ce soir-là et lui a dit « Bon, je suis venu pour te tuer, hein. T'as emmerdé un de mes nègres. » Alors le flic a voulu sortir son pistolet, mais Charlie Houlin lui a tiré une balle en plein cœur. Et ils l'ont sorti dans la rue et la soirée a continué au honky-tonk.
La soirée a continué au honky-tonk.
Ouais, la soirée a continué au honky-tonk.
Ouais. Alors, j'ai aussi été dans des camps pour bâtir des digues. Dans ces campements, il y avait des endroits pour danser. Des barrel houses, ils les appelaient. Et les Noirs étaient tous à jouer, tu vois. Et c'était du genre, il y en a un qui se fait flinguer, tu vois ce que je veux dire. Et il y a un gars tout petit qui traîne autour de la table de crap. Et ben, vu que la table est trop haute pour lui, il va...
lui grimper dessus.
Traîner le macabre jusqu'à la table et lui grimper dessus pour continuer à jouer.
Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai.
Et je les ai vus arriver et dire, les gars, essayez de ne pas tomber raide et moi, je m'occupe que vous tombiez pas en prison. C'est ça, il disait. Si tu butes un nègre, j'en embaucherai un autre. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu tues une mule, j'en achèterai une autre.
Ouais, ouais.
Tu sais, c'est un de ces trucs-là. Ça te dit quelque chose?
Ouais, ouais, ça m'est arrivé, hein, dans les camps. Ils disaient, tu sais, quand des types étaient épuisés d'avoir porté du bois ou autre, tu vois, ou d'avoir fait du défrichage, ils disaient, t'es crevé, tu t'en remets, tu tombes, t'es mort. Ouais. Fallait y aller, hein, pas le choix. Hein. Tu bosses bien ou tu laisses ta peau.
C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'ai entendu des trucs comme ça.
T'es crevé, tu t'en remets, tu tombes, t'es mort.
Ouais, c'est ça.
Bon, il y avait bien quelques Noirs qui n'avaient pas peur des Blancs hein, et qui leur répondaient. Ceux-là, on les appelait les cinglés.
Les cinglés.
Ouais.
Je me demande pourquoi ils les traitaient de cinglés, sous prétexte qu'ils réclamaient leurs droits.
Ouais, 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 ils les traitaient de cinglés.
Mais je vais te dire ce qu'ils font. J'avais un oncle qui était comme ça. Et ils l'ont pendu, là-bas. Ils l'ont pendu parce qu'il disait qu'il était fou et qu'il allait gâter les autres nègres.
Voilà.
C'est pour ça qu'ils l'ont pendu. Parce que c'était un homme qui ne voulait pas travailler sans être payé. Il savait compter aussi bien que les Blancs, parce qu'il était aussi instruit que certains Blancs, plus même que certains Blancs du coin.
Ouais, ouais.
Même qu'il y en avait plein qui venaient lui demander conseil.
Ouais, ouais, les Blancs de là-bas étaient à peu près aussi ignorants que nous.
Moi, je me souviens qu'une fois, ma tante, elle avait un bébé, un garçon, tu vois. Elle avait, dans les 2 ou 3 ans, un jour, le maître blanc se pointe et il dit « Dis donc, cette femme, tu vas me la mettre dehors, qu'elle aille bosser. Il n'y a pas de femme ici qui reste assise à l'ombre sans travailler, pas une, sauf Madame Anne, qu'il dit. » Alors mon oncle demande « Et c'est qui cette Madame Anne ?»
L'autre répond, ben, Madame Anne, c'est ma femme. Alors mon oncle lui sort, ah ben désolé monsieur, mais ma femme aussi, elle s'appelle Anne. Elle aussi, elle reste assise à l'ombre et elle ne sort pas. Il lui dit, va bien falloir qu'elle sorte. L'autre, il lui répond, il n'y a pas de nègre qui reste assis à rien foutre. Mon oncle dit, ben cette Madame Anne-là a beau être une négresse, mais elle n'ira pas travailler dans les champs. Là-dessus, l'autre a sauté sur son cheval. Et bon, ben, il a fouetté. Mais mon oncle, lui, il lui a mis une correction. Il a chassé son cheval et il lui a cassé la gueule et il l'a viré. Alors les autres sont allés en ville rameuter toute une bande. Et cette nuit-là, ils sont allés le chercher. Et il en a buté 4, 5. Et les autres, ils se sont sauvés. Mais finalement, ils l'ont pris, quoi.
Et ils l'ont pendu.
Ouais, ils sont venus le choper à 50 ou 60 et ils l'ont tué. Tout ça parce qu'il protégeait sa femme, parce qu'il ne voulait pas qu'elle travaille à la plantation... À ferme, sa femme avait un bébé là-bas à la maison dont elle devait s'occuper et elle attendait un autre pour bientôt. Alors il disait qu'elle pouvait pas aller bosser, mais du moment qu'elle était noire, elle devait aller bosser comme n'importe quel autre nègre. Voilà toute l'histoire. Another man done gone. Another man done gone. Another man done gone. Another man done gone. He's from the county farm. He's from the county farm. He's from the county farm. He's from county farm.
I've seen this happen too in the South. That one boy down there, it was a white guy was liking the same girl that this colored boy was liking. And
he told this colored boy. C'est ça le truc. J'ai vu ça moi aussi dans le Sud. Un jeune gars. Il y avait un blanc qui aimait la même fille que lui, un gars de couleur. Et ce blanc lui a dit qu'il ne devait pas l'épouser parce qu'il la voulait pour lui-même. Le gars a répondu qu'il l'aimait et qu'il allait l'épouser. L'autre dit, t'auras pas de licence ici. Alors le gars s'est enfui avec la fille. Ils sont allés dans une autre ville, ils se sont mariés et ils sont revenus. Et le blanc lui a demandé s'ils étaient vraiment mariés. Et il a répondu que oui. Alors la fille s'est imaginée que si elle lui montrait la licence, il la laisserait partir. Et elle la lui a montrée. Alors les Blancs sont allés en ville, ils l'ont chopée et ils l'ont tuée. Après, ils sont revenus et ils l'ont prise. Elle était chez elle, vu qu'elle attendait un bébé. Ils l'ont tuée. Et puis, ils sont allés chez le gars. Ils ont tué son père. Et ils ont tué sa mère. Un de ses frères était sorti se battre pour essayer de les protéger et ils l'ont tué aussi. En tout, ils en ont tué 12 de sa famille. C'était en 1913. Ce garçon, il s'appelait Andrew. Andrew Belcher, celui qui ont tué. Toute la famille, c'était des Belcher. Ça s'est passé dans un bled qui s'appelle Londal, Arkansas. C'est après Goulds, Arkansas. Là-bas, loin dans les bois, buter toute la famille. Ils font ça tout le temps là-bas. Genre, supposons que j'ai 3 frères. Si je vais travailler et que je fais quelque chose à un blanc, s'ils peuvent pas me choper, et ils s'en prennent à mes autres frères, quoi.
N'importe quel membre de la famille.
Oui, parce que tu vois, en même temps, normalement, tu peux faire des trucs et t'en tirer en te barrant. Mais prendre le risque de faire buter toute ta famille, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, ils le savent. Et s'il y a quoi que ce soit, c'est pour ta famille. Et s'il y a une fille dans ta famille qu'ils aiment, tu préfères la leur laisser, parce que sinon ils risquent de faire un truc, mais un truc épouvantable, parce que quand ils voient une femme noire qui leur plaît, il leur faut coûte que coûte. Another man done gone. Another man done gone.
Another man done gone. Another man done gone. Vera Hall, Another Man Done Gone, encore un gars qui est parti. He's from the county farm. 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 I didn't know his name. 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 He had a long chain on. 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 I'm gonna walk you along. You don't meet me at the waterfall. I'm gonna walk you along.
What they call a bad Negro in the South is a Negro that will really fight.
Anybody, anywhere.
See,
Ce qu'ils appellent un mauvais noir, c'est un noir qui se bat vraiment pour les siens.
Qui que ce soit, où que ce soit, tu vois.
Et puis, le noir qui va se battre contre les blancs, ils disent que c'est un cinglé. Ils disent pas qu'il est mauvais, en fait. Ils disent qu'il a perdu la boule. Le blanc va dire que c'est de la mauvaise graine, comme du grain qu'on sème.
Et ouais, il risquerait de gâter les autres noirs.
Et il risquerait de les gâter. Tu vois où je veux en venir, là. Bon, ils risquent d'ouvrir les yeux à beaucoup de noirs en leur disant des choses qu'ils savent pas, tu vois.
Ou sinon, c'était un noir intelligent.
Qui se baladait, prenait le Chicago Defenders et l'a porté dans le sud. Tu vois ce que je veux dire? Il le descend jusque là-bas et il le lie aux autres noirs.
En parlant du Chicago Defender, j'étais une fois dans un bled nommé Marigold, Mississippi. Là-bas, il y avait un restaurant avec à l'arrière une porte avec un Judas.
Ouais.
Alors j'ai cru que c'était un tripot ou un truc du genre et je suis entré pour voir si ça flambait là-dedans. En fait, comme j'étais plutôt pris à la gorge, je voulais faire rouler les dés histoire de me refaire un peu.
Ouais.
Mais t'imagineras jamais ce qu'il faisait là-dedans. Il lisait le Chicago Defender et il y avait un mec à la porte.
Un guetteur.
Ouais, un guetteur au Judas.
Ouais, ouais.
Et si un blanc arrivait au resto ou quoi, il foutait le Defender à brûler dans le poêle et il se mettait à jouer aux dames.
Ouais.
C'est comme ça qu'il faisait entrer le Defender en douce là-bas. C'est ça qu'ils appellent un mauvais noir. Un noir assez gonflé pour passer le Chicago Defender en contrebande dans l'état du Mississippi où il était interdit à la vente.
Tu vois, c'est ça qui les rend si irritables jusqu'à aujourd'hui. À force de se faire jeter de partout, supposons qu'il y a une bande de gars posés quelque part et que vous venez nous dire « Faut bouger les gars !» ou bien « Poussez-vous de là-bas !» ou « Restez pas là !» ou autre. On croit tout de suite que c'est pour nous. Nous, les noirs, tu vois. Alors que plein de fois, c'est même pas ça. Faut juste que tout le monde se barre de là, mais les noirs le prennent pour eux direct. Ils se disent « Je vais me faire virer parce que je suis noir. »
Alors je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à moi.
Ouais.
Sonny Boy Williamson.
Ma mère, elle a acheté une mule à, tu vois, je veux dire, celui qu'on appelait Captain Mac. Tu sais, c'est le patron du chantier de la route du comté.
Où ça?
À Jackson, Tennessee.
Jackson, Tennessee?
C'est le patron. On faisait la route là-bas, la route du comté. On te trimballe en camion, et puis tu construis des ponts, tu creuses des fossés, ce genre de truc, tu vois. Alors d'accord, il n'y avait pas de chaîne, mais voilà. Bon, il avait vendu une mule à ma mère, alors que j'étais tout jeune et tout, et ma mère m'a donné la mule. Et forcément, moi, tu vois bien comment sont les gosses, je la faisais cavaler, la mule. Enfin, cette mule, c'était une bien belle mule. Mais un jour, la mule, elle s'est embourbée dans un vallon et elle est morte.
Attends une minute.
C'est la mule que t'as épousée?
Qu'est-ce que ça veut dire, embourbée?
La mule s'est embourbée, laisse-moi finir.
Non mais attends, dans la boue?
Dans les fards, dans le sable mouvant.
On parle de la mule à qui t'as payé un chapeau.
La mule s'est embourbée, elle est morte. Et donc ce Captain Mac, là, il était un peu dingue, il a dit à ma mère, je suis un cinglé, moi. Alors attendez un peu que je tombe sur ce foutu gamin et je vais lui faire pareil à ce qu'il a fait à cette mule. Et ma mère qui se démenait tant qu'elle pouvait pour pas qu'elle me tombe dessus. Il m'attendait au tournant dès que je bougeais une oreille. Il voulait... Moi je me disais, il lui a vendu la mule. Elle la lui a payée cette mule. Mais il va quand même me faire la peau, comme à moi, à la mule. Parce qu'il croyait dur comme fer que je l'avais buté, ce le bestiau.
Et quel âge t'avais à ce moment-là? T'étais jeune?
Ben, j'avais dans les 14 ans.
14 ans à l'époque? Ben, ouais, cette phrase, elle nous ramène à l'autre. Comment c'était déjà? Si on tue un nègre, on en embauche un autre. Et si on tue une mule, eh ben,
on en achète une autre.
Tu vois? Tout ça, ça revient à la même chose. Au fond de l'affaire, c'est qu'à l'époque, pour un blanc, un noir, ça valait pas plus qu'une mule.
Moins qu'une mule.
Tu diras pas le contraire.
Alors, ça, je suis d'accord.
Voilà, c'est là que je veux en venir. Tu vois, tu prends une mule, on peut la vendre. Bon, d'accord. Mais il y a un temps où on vendait des noirs aussi, tu comprends. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une tête. Une tête d'un homme noir. Il y a un gars, par chez moi, qui s'appelait Mr. White. C'était sur une plantation. Il avait ses terres à lui, là-bas, 80 ou 100 km carrés. Tu vois ce que je veux dire? Et d'un bout à l'autre, toutes les clôtures du terrain étaient blanches. Les arbres, ils les peignaient en blanc, le plus haut possible. Et le bétail, bah, les moutons, les chèvres, les cochons, les vaches, les mules, les chevaux, dans son domaine, tout était blanc. Et chaque fois qu'une de ces vaches ou de ces chèvres ou autres mettait bas un chevreau noir, un mouton noir, un chat noir, un poulain noir, quoi que ce soit, il le donnait aux nègres. Il voulait rien de noir sur sa plantation, quoi. La grande route, la route nationale, passait dans sa plantation. Alors lui, il achetait des terres autour de sa plantation et il a fait faire une autre route pour que les Noirs traversent jamais sa plantation. Du coup, ils étaient obligés de faire tout le tour, tu vois. La nationale passait au beau milieu de sa plantation, mais il ne voulait pas que les Noirs y passent. Quand arrivé devant ce panneau qui disait « Fais demi-tour négro », on était sur la grande route, tu vois, il y avait marqué « Fais demi-tour négro ». Eh bien, tu faisais demi-tour et tu faisais le tour de sa plantation. Et alors, chaque fois qu'un veau ou n'importe quel animal né chez lui était noir, il l'appelait poulet, voire même poulet noir. Il n'avait que des poules blanches, tu piges, pas de noir. Dès qu'un poussin noir était éclos, il le prenait direct et allait le filer au premier noir venu, rien que pour plus l'avoir sous le nez. Je me souviens une fois, il y avait un noir et un blanc au passage à niveau. Tu sais, genre le passage à niveau juste à l'entrée de la ville. Le noir et le blanc étaient plantés là, regardez, en discutant, le blanc disait au noir ce qu'il voulait lui faire faire. Il y avait un autre noir qui arrivait en chariot. Il conduisait un attelage d'une mule grise et d'une mule noire. Bon, il passe le passage à niveau et les rails étaient assez hauts à cet endroit-là, tu vois. Du coup, la roue du chariot bute sur le rail et les mules se mettent à vouloir faire une pause. Alors lui, il les pousse à la voix. « Hue donc, hue donc !» Là-dessus, le blanc se met à gueuler et lui dit « Hé, dis donc !» qui lui fait « Est-ce que tu te rends compte que c'est à une mule blanche que tu es en train de causer ?» Le nègre dit « Ah oui, monsieur, debout, monsieur, la mule !» Mais en même temps, il lui met pas de coup de bâton. Il osait à peine frapper la mule grise. Il disait « Debout, monsieur, la mule, debout, monsieur, la mule !» à la mule grise. Mais la mule noire, elle lui mettait des coups tout en hurlant « Debout, hein, monsieur la mule grise !»« Monsieur la mule grise, on y va ?»
Ah ouais. Et le coup du tabac, Prince Albert, tu sais ?
On en a causé en Louisiane.
Mmh. Allez pas dire « Donnez-moi une boîte de Prince Albert hein. », pas avec le blanc qui était sur la boîte.
Ben comment fallait dire alors ?
« Donnez-moi une boîte de Monsieur Prince Albert. »
Monsieur Prince Albert. Mmh.
Memphis Slim, Fast Boogie, Boogie Rapide. Vous venez d'entendre Blues in the Mississippi Night, un blues dans la nuit du Mississippi, une conversation entre trois bluesmen, Big Bill Bronzy, Memphis Slim et Johnny Sonnybo Williamson, enregistré en 1947 par le chercheur Alan Lomax et interprété par trois comédiens ariégeois. Paul Sud, qui a réuni les comédiens, et moi-même, Bruno Blueboy, nous espérons que cette soirée vous a plu. Ces témoignages inédits à l'époque et bouleversants donnent une idée de la vie des Afro-Américains à l'époque de la ségrégation. Alan Lomax a dû attendre plus de 40 ans avant de livrer les noms des bluesmen qui y avaient participé. Ces derniers étaient terrorisés à l'idée que leur nom soit révélé. Ils craignaient les répercussions sur eux ou sur leur famille. Cet état d'esprit est traduit dans le blues, la musique du peuple noir américain. Cette soirée, Blues in the Mississippi Night, aura une suite. Paul Sud et moi animerons une deuxième émission au cours de laquelle on pourra revenir plus en détail sur les bluesmen, les work songs, les fermes pénitentiaires, les chain gangs, les chants religieux, la naissance du blues, les mille et une anecdotes livrées au cours de cette conversation historique entre trois grands artistes de blues et la culture afro-américaine en général. Nous vous donnons rendez-vous donc pour cette prochaine émission. Celle-ci en tout cas se termine. Je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.